7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parlait enseignement supérieur. C'est la période des inscriptions pour la prochaine rentrée. Et dans les familles, on discute souvent, notamment pour les filières commerce, management. Faut-il choisir l'université publique ou une école privée? Alors bien sûr, ce ne sont pas seulement les étudiants qui font des choix, mais aussi les universités et les écoles qui cherchent à capter les meilleurs. Alors, université publique ou école privée, où sont les talents de demain? On va en discuter avec nos invités. Isabelle Barthes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'INSEEC Business School, qui appartient à un groupe de 25 000 étudiants qui possède plusieurs écoles, notamment une école en Côte d'Ivoire, je crois.
Une antenne à Abidjan.
À Abidjan. Mickaël Lenné également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en économie à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Vous avez aussi enseigné dans une business school. Vous nous parlerez de cette expérience. Également avec nous, Maurice Midena, bonjour.
Bonjour.
26 ans, journaliste, ancien élève d'une école de commerce. Vous avez mal tourné, vous êtes devenu journaliste.
Oui, je ne sais pas lequel est le pire.
Bienvenue au club. Et quant à vous les voisins, si vous connaissez les deux expériences, parlez-nous des étudiants et des talents que vous avez croisés sur les campus, si vous avez fréquenté à la fois une école de commerce, de management privé, puis l'université publique. Appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez bien sûr poster des messages écrits également sur le reste des réseaux sociaux. Je vous lis quelques messages postés par nos auditeurs. Malik à Dakar nous dit que ici au Sénégal, ce sont les écoles privées qui fournissent les talents dans le milieu professionnel. L'État doit changer cette tendance et introduire des filières professionnelles pour assurer l'avenir des étudiants qui sont dans les universités publiques sénégalaises. Il y a, à ma connaissance, déjà des filières très professionnalisantes dans certains secteurs de l'université, qui sont d'ailleurs des filières qui deviennent payantes au sein de l'université publique. François est à Lomé au Togo et nous dit que au Togo les universités privées pullulent mais peu d'entre elles ont leur diplôme certifié par l'État togolais. Les jeunes issus de l'université n'ont pas les mêmes chances que ceux qui sont issus des écoles privées sur le marché de l'emploi. Décrocher un diplôme d'une université publique n'est pas si simple. Si un apprenant arrive à le faire, c'est qu'il est doué et a beaucoup de talent. Sous-entendu, effectivement, le mauvais état des universités. Et donc, il faut des étudiants très autonomes. Et il nous dit, François, moi, je préfère les universités publiques aux privées. Diaby est à Bamako. Il nous dit que l'éducation est devenue un véritable business avec les MBA. Et pour cause, ça s'appelle Master of Business Administration. Je suis un produit des universités publiques. Je n'ai rien à envier aux sortants des universités privées. Voilà, vous voyez, on a quand même des commentaires assez contrastés, assez différents. Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71 et nous suivre sur Facebook, sur Twitter, en direct. Et puis, je vous précise aussi qu'en fin d'émission, on donnera la parole dans notre rubrique « L'Afrique qui gagne » chaque lundi à un ingénieur entrepreneur en informatique, Douglas Mbiandou. Ça sera son portrait par Alice Milo. Il a aussi créé 10 000 codeurs pour l'Afrique. Et oui, le codage, c'est l'avenir, pas seulement du continent africain. Allez, je vous rappelle notre numéro, 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Mickaël Lenné, vous avez publié il y a quelques mois un récit dans le journal Le Monde sur votre expérience d'enseignant dans une école de commerce en tant qu'économiste, sur un ton, je dois dire, tout à fait inhabituel dans un monde assez feutré. Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire et pourquoi ?
J'avais surtout envie de raconter mon expérience, puisque j'ai été assez effaré quand je suis venu en école de commerce.
Une école qui fait partie de la conférence des grandes écoles, hein, on est bien d'accord.
Et qui, dans le classement, l'étudiant, le point, au niveau de la professionnalisation, est une des meilleures. Je dis bien au niveau de la professionnalisation. Et j'étais assez effaré déjà de voir l'attitude des étudiants, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et le niveau de ces étudiants, puisque je croyais au discours que cette école tenait sur elle-même en arrivant, qui est un discours d'excellence. J'ai eu les étudiants d'à peu près toutes les années du cursus, notamment dernière année, et quelle ne fut pas ma surprise de constater qu'en dernière année, un étudiant sur deux ne savait pas du tout ce qu'était un seuil de rentabilité, ce qui est quand même une notion absolument capitale pour comprendre le monde des affaires, entre autres choses, ou bien avait la même attitude face à un bilan ou un compte de résultat qu'un vampire face à un crucifix ou une gousse d'ail. Donc ça m'a considérablement surpris.
Ce que vous citez comme type de connaissances, c'est vraiment des connaissances très professionnalisantes.
Ah oui.
C'est pas des, grands concepts d'économie.
Non, il ne s'agit pas de choses abstraites ou d'un point de vue d'érudit.
Mais comment c'est possible ?
Blanchi sous le harnais universitaire. Non, c'est... Alors, je pense, moi, en prenant du recul sur cette expérience, que... donc moi, c'était une tribune à chaud, mais en prenant du recul sur mon expérience, je pense qu'il y a un défaut dans le système actuel, qui est que celui qui se fait évaluer paye l'évaluateur. Et donc forcément, quand l'évalué paye l'évaluateur, il y a un risque de complaisance inouïe de la part de l'évaluateur, puisque l'évalué ne peut pas affronter l'idée qu'il n'est pas à la hauteur.
À la différence des universités où les enseignants qui notent sont payés par l'État.
C'est oui,
ce
tout
que
à
vous
fait.
Voulez dire.
Ouais. Je pense que d'ailleurs on verrait très bien le malaise si, par exemple, les auto-écoles délivraient leur propre permis de conduire. Je pense que si on ne fait pas ça, ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est pour de très bonnes raisons qu'il y a des évaluateurs indépendants, du coup stipendiés par l'État, qui évaluent les capacités de chacun selon un diplôme qui serait du coup le même. La différence entre les auto-écoles étant la capacité à effectivement dispenser une bonne formation qui vous assure à coup sûr plus ou moins le permis de conduire. Et d'ailleurs, c'est une des grandes causes, si on poursuit le parallèle, une des grandes causes de la crise financière de 2007-2008, il y en a beaucoup. C'est une crise qui a beaucoup de ramifications et beaucoup de causes, mais une d'entre elles tient au fait que les produits financiers complexes, les actifs toxiques, ce qu'on appelait les actifs toxiques, étaient évalués par des agences de notation, les trois grandes, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, et c'était toujours les banques qui faisaient ces actifs toxiques qui payaient l'évaluateur. Et du coup, il y a eu une extrême complaisance de la part des agences de notation, qui est très bien documentée d'ailleurs, puisqu'ils étaient en conflit d'intérêts. Moi, je pense qu'il y a là conflit d'intérêts. La situation est la même, me semble-t-il, pour les écoles de commerce.
Toute proportion gardée,
Parce que
même si les écoles de commerce s'effondrent, le monde ne va pas s'effondrer.
Oui.
Mais vous dites, en gros, il y a quelque chose de pourri dans le système.
Bon, pourri, j'en sais rien. En tout cas, je pense que le système est mal conçu. Je n'ai rien contre le fait qu'il y ait des écoles privées, bien évidemment. L'éducation a un coût. Ce qui est tout à fait normal, l'éducation a un coût. Donc que ce soit assuré par le public ou le privé, il faut bien trouver un moyen de financer ce coût. Je pense que là où le système est pervers, c'est dans l'évaluation.
Isabelle Barthes.
On est quand même, d'un point de vue assez anecdotique et d'une dérive que je ne remets pas en cause à l'expérience que vous avez vécue, sur une généralisation qui n'est pas tenable. Les écoles de commerce françaises et internationales sont très encadrées. Elles doivent passer pour avoir le grade master devant la CEFDG, qui est une accréditation ministérielle. Je peux vous dire, je viens de faire le dossier et j'étais à la commission pendant 3 ans. Ce n'est pas simple.
Ça, c'est sur le contenu des enseignements.
Sur le contenu et la qualité du corps professoral et la façon dont on évalue, etc. Tout est passé à la moulinette. Il y a toutes les accréditations internationales, et CSB, EFMD, etc., qui ont les mêmes exigences. Et puis, il y a la sanction du marché. Je veux dire, on se tirerait une balle dans le genou à mettre sur le marché du travail des étudiants qui ne sont pas à la hauteur. Ça tiendrait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça ne tiendrait pas 10 ans. Donc, le système n'est pas endogamique, n'est pas endogène. Il travaille avec l'extérieur, qui sont les entreprises. Et la plupart des écoles maintenant ont d'ailleurs une co-formation avec des entreprises, avec le système de l'alternance. Moi, je vois l'école que j'irige, j'ai 25% des étudiants qui sont en entreprise pendant toute leur scolarité. On ne s'amuse pas à donner... Ce n'est pas l'école des fans. On n'a pas le petit drapeau 10 sur 10 à nos étudiants. Il y a de nombreux redoublements, il y a de nombreuses remises en cause de la qualité des étudiants sur des évaluations. Et en effet, on est amené à ce que le diplôme corresponde à un passeport de compétences correspond au grand master en l'occurrence.
Maurice Midena, vous avez démissionné d'une grande école de commerce très réputée, Audencia Nantes, après avoir réussi le concours d'entrée, après être passé par les classes prépa, donc vous étiez le bon élève typique. Pourquoi vous avez démissionné de cette école de commerce ?
Si vous voulez, donc, si on veut vraiment rentrer dans mon parcours individuel, moi j'étais un étudiant très classique, c'est-à-dire qui rentre en classe préparatoire, c'est-à-dire j'étais un bon élève de lycée. Donc en général, comme beaucoup d'élèves de lycée qui viennent de province, on a quelques propositions, c'est-à-dire la première, aller en médecine, par exemple, ça, c'était assez, assez courant pour les très bons élèves. Et ensuite, on a le choix entre la fac et, en général, les classes prépa. Donc, soit les classes prépa aux écoles de commerce, soit les classes prépa les cagnes, les prépa ingés. Et le choix se fait pour les meilleurs, en tout cas ceux qui choisissent la classe prépa, c'est parce que la classe prépa a une image, et là pour le coup c'est assez vrai, d'exigence intellectuelle, d'exigence de travail. C'est aussi un passage très, c'est aussi quelque chose d'assez prestigieux et reconnu. À l'inverse, l'université, et surtout les universités en province, sont des lieux où plutôt on a l'impression qu'on est lâché dans la jungle, qu'on est très peu encadré.
C'est-à-dire que quand on est un très bon étudiant, ça n'a pas de sens de choisir l'université. C'est oui, ce que vous voulez dire. Le système fait que ça se passe comme ça et qu'on ne se pose pas de questions.
C'est assez ça. Et pour le coup, pour mon travail, pour mon diplomatique et pour d'autres aussi, j'ai passé énormément d'entretiens avec des étudiants qui m'ont dit, je me suis retrouvé en école de commerce, je me suis retrouvé en prépa en école de commerce, par hasard, c'était un non-choix.
Par le hasard de mes très bonnes notes, voilà, sous-entendu.
Quelque part, alors il n'y a rien de hasardeux,
hein.
Il y a des mécanismes sociologiques incroyables dedans.
Et juste forcément par aspiration personnelle.
Justement, hein. C'est exactement ça. Et donc pour vous répondre en fait à votre réponse, à votre question, excusez-moi, c'est que pourquoi est-ce que j'ai démissionné? C'est parce que j'avais une tension qui était une tension très très personnelle pour le coup. C'est parce que j'avais le rêve d'être journaliste depuis que j'étais enfant. Et le contraste entre ma frustration réelle de la vacuité.
Bon, donc là, erreur d'aiguillage, ça arrive c'est très souvent dans chez les jeunes. Hein.
Alors, c'est une erreur et encore pas vraiment, parce qu'en fait, je suivais le chemin exact de n'importe quel étudiant qui se retrouve en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, en vérité. Après, il y a juste une deuxième partie, donc ça, c'est la partie un peu par hasard. Après, il y a toute une partie d'étudiants qui, eux, sont tout à fait conscients qu'ils choisissent une classe préparatoire parce que dans leur famille il y a des gens qui ont fait des grandes écoles, etc. Mais il y a vraiment deux grands types d'étudiants, ceux qui savent et ceux qui s'y retrouvent vraiment par hasard.
Vous avez ensuite enquêté sur les grandes écoles de commerce. Vous avez rencontré des étudiants qui ont trouvé qu'ils avaient de bons cours, qui étaient contents du contenu de leurs cours?
J'en ai trouvé un. En vérité.
Sur combien?
Vraiment, j'ai passé 35 interviews en face à face, et alors je ne compte pas le nombre d'entretiens que j'ai passé de façon informelle avec des étudiants. Et c'est ça qui est assez intéressant en fait quand j'entends Monsieur Lenné et Madame Barthes, c'est-à-dire que en vérité, un étudiant d'école de commerce n'est pas là pour être dans une salle de classe, en vérité. Et c'est ce que je raconte dans mon enquête dans le monde diplomatique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est, par exemple, de relier le discours de Madame Barthes au discours de Monsieur Lenné. C'est-à-dire qu'un étudiant d'école de commerce, c'est un étudiant qui est déscolarisé dans un système scolaire. C'est-à-dire qu'une école de commerce, ça ressemble à une école. Ça a des murs, ça a des profs, ça a des notes, etc. Mais en vérité, ce qui se passe dans les salles de classe est quelque chose d'extrêmement marginal dans la formation et dans la préparation à l'étudiant de devenir ensuite un manager.
Il faut dire aussi que ceux qui sont passés par les classes prépa et les concours, ils ont énormément emmagasiné de connaissances et énormément travaillé. C'est clair qu'on a plus appris pendant les deux années de classe préparatoire qu'au moment d'arriver dans les grandes écoles. Les grandes écoles ne s'en cachent pas d'ailleurs.
Alors, je crois qu'il y a deux choses dans ce que dit Maurice. Une erreur c'est un changement de cap. Il y a pas beaucoup d'étudiants qui démissionnent, il faut le savoir.
Ah, ça, oui, bien
et
sûr.
Et c'est assez rare. Et
ça s'appelle un peu se tirer une balle dans le pied quand même, quand on a travaillé deux ans énormément pour avoir
le concours.
Non, on a toujours
appris. Il a appris énormément de choses. Et la deuxième chose qu'il décrit, qu'on vit beaucoup, c'est après la prépa, la première année de business school, qui est en effet une sorte de choc thermique parce qu'il n'y a pas de continuum réel. Mais je crois que ce qui est important dans ce qu'il vient de dire, c'est que d'abord, on fait son école de commerce, on fait sa formation. C'est une co-construction. Il y a des étudiants qui sont dans les meilleures écoles qui n'en tireront rien. Il y en a qui seront dans des facultés où il n'y a pas l'élite qui se construit, qui se feront des parcours extraordinaires. Et moi, ce que j'ai toujours vu dans ma carrière, c'est qu'on co-construit, on prend ce qu'il y a de bon dans une école. Je vous rappelle que le mot talent, parce que c'était le mot de notre émission,
c'est
un triptyque. C'est la compétence. Et la compétence, c'est en effet la qualité de la formation que vous allez suivre. C'est l'opportunité, c'est-à-dire les opportunités qu'on va vous donner. Et ça, en effet, les business schools avec le réseau des alumni, la proximité avec les entreprises vous donne un peu plus d'opportunités, peut-être qu'une université où il y a moins de possibilités de partenariat. Et puis le troisième, c'est la motivation de l'étudiant, la motivation intrinsèque. Et c'est vrai que ça, ça ne dépend pas de l'université, de la business school. Moi, j'ai toujours vu des étudiants hyper entreprenants qui prenaient tout, l'alternance, le séjour à l'étranger, l'association, puis ceux qui se comportaient comme des consommateurs. Et ça, ils peuvent être assis dans un amphi de 3000 étudiants ou dans une business school la plus chère et la plus élitiste. S'ils ont les yeux vides et pas envie de se bouger, on ne fera pas le travail pour eux.
Michael Lenné, vous êtes d'accord avec cette définition du talent, la compétence, l'opportunité, la motivation?
C'est une théorie à la MRE.
Oui, alors je rajouterai la créativité, l'esprit critique. Je pense quand même qu'il y a un grand défi pour les digital natives, hein, ceux qui sont nés dans l'Internet et les réseaux sociaux, qui est le défi, en fait, je dirais, hein, d'après mon expérience, que je vois, j'interagis chaque année avec 400 nouveaux étudiants. Je pense maintenant avoir une bonne appréhension de comment résonnent ceux qui sont nés avec ce siècle, ou pas loin. C'est le rapport au temps. Le rapport au temps, le temps s'est tellement accéléré. Du coup, ça pose un certain nombre de difficultés. Alors, je pense que c'est une génération qui a des capacités relationnelles que les générations précédentes n'ont pas eues, une aisance à l'oral que les générations précédentes n'ont pas eues. Mais ce grand défi-là fait une grande difficulté à avoir la capacité d'abstraction et l'esprit critique. Puisque ça demande un temps long, ça ne demande pas le nombre d'étudiants qui sont paniqués dès lors que quelque chose n'est pas immédiatement compréhensible. C'est
ça,
extrêmement
vous
fréquent.
Vous l'avez observé,
mais ça, c'est générationnel. C'est pas,
quand
c'est
vous
pas
enseignez
le...
une notion d'économie...
Oui, ou même d'autres choses.
Si ce n'est pas limpide, clair, tout de suite...
Ouais. Pour beaucoup, hein, je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Je pense qu'il y aurait des études à mener là-dessus. Mais en tout cas, c'est un ressenti très fort de professeurs. Mais
il faut que ça soit aussi rapide qu'une vidéo sur YouTube.
Mais parce qu'ils ont l'information partout. Le TEDx, il dit en 10 minutes ce qu'un prof a du mal à sortir en une heure.
Alors justement, si je peux me permettre...
Par ailleurs, c'est un problème. Faudrait vraiment prendre ça. Il y a vraiment ça.
Attendez, Michael Lenné, on vous laisse terminer.
Merci. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour beaucoup, du coup, d'étudiants, c'est en ça qu'ils n'ont pas d'esprit critique, ou c'est difficile, c'est un défi. Pour beaucoup d'étudiants, tout est une question d'information. Et donc le rapport, la distance à l'information, la réflexion, la culture en général, le fait que le marché des manuels universitaires se soit totalement effondré depuis plus d'une dizaine d'années, ce n'est pas un hasard. Lire 600 pages pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble complètement incongru. Et simplement donner un livre à lire à un étudiant, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors on est petit à petit, moi je pense, hein, face à un effondrement de la civilisation de l'écrit. Même si Internet, c'est encore de l'écrit, c'est malgré tout plus le même écrit, puisque c'est pas le même rapport au temps. Et je pense que pour vraiment incorporer des idées abstraites...
Ce sont des constatations qui sont partagées aussi bien sur la population des étudiants d'université publique que dans les business schools, non ?
Tout à fait. C'est pour ça que je souhaiterais revenir sur les propos de Mme Barthes. Au niveau de la motivation, je pense que malgré tout, en tout cas, c'est ce que je constate, le fait de payer pour avoir un diplôme, et ce que j'ai vu, c'est que beaucoup d'étudiants ont un rapport de client. C'est-à-dire, ce qu'ils achètent, c'est non pas le fait d'avoir une formation de qualité, c'est ce que je croyais, c'est en fait, pour beaucoup, avoir un diplôme. Et les parents, derrière, suivent beaucoup, puisqu'ils ont l'impression que si leur enfant n'a pas de bonnes notes, c'est la faute de l'école de commerce, de l'école privée. Donc à ce moment-là, il le change d'école. Et ce chantage au changement d'école a un impact lors des réunions pédagogiques où on discute des étudiants de leurs mérites et de leurs notes pour les relever et éventuellement leur faire passer. L'équipe pédagogique en a tout à fait conscience.
Vous voulez dire que les enseignants ont des pressions pour remonter les notes ?
Tout à fait. Moi,
pour diminuer
ça correspond,
les exigences
ça correspond. Et je pense d'ailleurs...
Vous avez
j'ai écouté poliment ce que vous m'avez dit.
Moi, j'en ai dirigé deux. J'ai fait partie du chapitre des grandes écoles. Oui. Je fais partie de toutes les conférences d'accréditation. J'étais à la CEFDG. Les étudiants ne viennent pas acheter un diplôme. Ils investissent dans leur formation. Et je crois que c'est une vraie question. En effet, la gratuité a sa grandeur. Elle a aussi ses limites. J'ai été professeure à l'université pendant 25 ans. Je sais aussi ce que c'est que la faculté. Et j'ai enseigné dans à peu près toutes les facultés dans 4 universités différentes. Dans une école de management, vous investissez dans votre formation. Ce que les parents cherchent, en effet, les familles investissent, c'est une forme de sécurité pour leur enfant, parce qu'elles savent qu'à la sortie, et les chiffres ne sont pas pipés, alors parce qu'on peut rentrer dans ces débats, entre 92 et 98% des étudiants ont un emploi dans les 3 mois, oui. avec des salaires à la sortie qui leur permettent de rembourser leurs études. Parce que beaucoup d'étudiants sont ou en alternance, ou font des prêts étudiants. Et moi, c'est le cas de mes enfants. C'est pas parce qu'on fait des études chères qu'on a forcément des parents extrêmement fortunés.
Jamais soutenus.
Et non, mais je crois que derrière
je
ce que vous dites...
Je pense que vous
m'avez
par contre interrompu.
Non, non mais j'entends ce que vous dites. Mais,
non, mais
je ne voudrais
pas
qu'à partir d'une anecdote,
j'étais en train de commencer.
Dans une école donnée, à un moment donné, vous alliez la généralisation de tout ce que les écoles... Une fois de plus, alors, une école a quand même... vis-à-vis
un monologue, des
entreprises
de dire,
et des étudiants.
On va laisser terminer, Michaël Lenné. On a bien entendu votre réponse.
Oui, mais c'est
réponse.
Un procès d'intention qui est très gênant. Bien...
Non, non, c'est
moi,
un procès d'intention. Alors, si je peux développer mon argumentation, s'il vous plaît, je vous remercie de votre politesse.
Vous n'avez pas fait de statistiques sur le ressenti des enseignants qui enseignent dans les grandes écoles. Non. Néanmoins, vous avez discuté avec d'autres enseignants, vous avez croisé votre ressenti avec celui d'autres enseignants dans d'autres grandes écoles.
Alors, oui, tout à fait. Alors déjà, simplement des éléments factuels. Quand j'entends qu'il y a beaucoup de redoublements dans les écoles, je souhaiterais connaître les taux d'échec dans les écoles de commerce. À mon avis, c'est très révélateur. Ça, c'est un premier point.
Il faut savoir aussi que c'est difficile de faire redoubler des étudiants dans des écoles qui sont ultra coûteuses, 12 000 euros en moyenne pour l'année, parce que là aussi, de ce côté-là, l'école aurait la famille sur le dos en disant « Mais vous voyez bien, vous en faites un business si vous faites redoubler mon enfant,
mais
non ?»
On fait redoubler des étudiants qui n'ont pas la moyenne. Alors, je ne peux pas vous donner, mais moi, je vois des écoles que j'ai dirigées, on était entre 3 ou 5 % chaque année d'étudiants qui ou redoublaient partiellement.
Beaucoup moins important qu'à l'université, on est bien d'accord.
Mais à l'université, est-ce que c'est du redoublement ou un échec ? Alors, est-ce que c'est brillant de dire que un tiers des élèves n'arrivent pas au bout de la licence ? C'est quelque chose d'intéressant de dire ça. Dans l'école, vous rentrez, vous êtes accompagné. Et vous, pour moi, c'est un contrat pédagogique inversé. Vous rentrez à l'université, et ça a été très bien dit par un des étudiants qui témoignait du Togo, il faut être autonome. À la limite, plus on a des parents qui ont des CSP+, plus c'est facile de trouver les stages et d'avancer. Alors que dans une école de commerce, c'est un contrat pédagogique inversé. On vous recrute, et en effet, on vous amène au diplôme, mais pas à n'importe quel prix, mais peut-être en 5 ans au lieu de ou 4 ans au lieu de 3. Parce qu'on aura, on pariera sur vous et on vous encadrera pour aller jusqu'au bout. Moi, c'est ce que j'ai toujours vécu dans les deux systèmes. Et je trouve qu'il y a aussi une vertu à accompagner des étudiants, pas toujours brillants, et qui ont besoin d'investir en énergie, en argent, pour aller jusqu'au bac plus 5.
Michaël Lenné, on vous redonne la parole avec Maurice Midena dans quelques instants. Où sont les talents de demain? Si vous connaissez, quant à vous, les voisins et les voisines, si vous avez connu les deux expériences, parlez-nous des étudiants, des talents que vous avez croisés sur les campus. Plus 33 1 84 22 71 71. You look alive, you look alive, you look alive. Flowers on a sunny day. You feel alive, you feel alive, you feel like raindrops, raindrops. You look alive, you look alive, you look alive. Flowers on a sunny day. You feel alive, you feel alive. You stole my heart when you went away. You need to give it back with a string or two attached. Yeah, I know we just met about an hour ago. And then right out of the blue, I wanna spend a lifetime with you. You look alike, you look alike, you look alike. Flowers on a sunny day. You feel like raindrops, raindrops. You look alike, you look alike, you look alike. Flowers on a sunny day. You feel like, you feel like, you feel like raindrops, raindrops. I crossed my heart and I hope to die. Guitar to take your traveling, and here's the only song I'll sing. You look alive.
des lookalikes Bernhoft chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Où sont les talents de demain dans les écoles privées de management, dans les universités publiques? On en débat avec nos invités qui sont sur le plateau de RFI. Michaël Lenné, qui est enseignant d'économie à Paris 8 Saint-Denis et qui a été enseignant en école de commerce. Vous avez auparavant d'ailleurs enseigné dans d'autres universités. Isabelle Barthes, qui est directrice générale de l'INSEC Business School, qui a été aussi directrice générale de l'EM Strasbourg. Vous avez aussi enseigné à l'université
25 ans.
De Strasbourg. Et Maurice Midena, devenu journaliste à la suite d'une erreur d'aiguillage, puisque vous étiez étudiant à Audencia à Nantes, une école prestigieuse de commerce que vous avez quittée. Alors c'est vrai, les étudiants sont rares à se plaindre, si ce n'est peut-être sur des forums relativement confidentiel, mais Michaël Lenné, vous qui êtes assez critique sur les écoles de commerce, en privé, ils disent mais nous n'allons pas critiquer notre école, car critiquer notre école, même si parfois nous le pensons, cela revient à dévaloriser son diplôme. Vous l'avez entendu, ce type de phrase?
Non, moi, je ne peux pas dire.
Parce que moi, je l'ai souvent entendu, ça. Et je l'ai souvent lu aussi sur des forums.
Je l'ai entendu aussi, hein, ça revient très souvent.
Je pense que, oui, du coup, ce sera plutôt M. Midena qui saura mieux en parler que moi. Effectivement, ça semble logique. L'investissement en temps, en argent, il est tel qu'on ne peut pas... c'est notre viatique pour le monde du travail, ce diplôme-là. Mais je pense malgré tout que le taux d'échec soit si bas, ça se sait, c'est un secret de polichinelle parmi les étudiants, et ça contribue à faire baisser la motivation. Parce qu'il y a un rapport au travail qui, du coup, est une intolérance à l'effort, qui est très forte.
Il y a plus de tolérance à l'effort dans les universités,
oui,
selon vous?
Et un état d'esprit beaucoup plus respectueux et beaucoup plus tourné vers le travail.
Parce qu'ils savent que s'ils échouent aux examens, ils sortent les mains vides, à la différence de l'école, c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est pas... Et d'ailleurs, je précise quand même que pour les accréditations d'écoles de commerce, les personnes qui accréditent n'assistent pas aux réunions pédagogiques de fin d'année où il s'agit de relever les notes des étudiants ou de décider du passage ou du non-passage. Donc c'est une accréditation sur le papier. Alors sur le papier, ça peut être très beau. Et par ailleurs, par rapport à mon propre expérience, puisqu'on essaie juste de me dire que... c'est une expérience qui ne peut pas être généralisée. Il y a quand même eu trois directeurs différents qui sont succédés, dont un ancien directeur d'une très grande école. Le directeur de la recherche a connu tous les postes en question. Et quand j'ai annoncé ma démission, donc il y avait un directeur par intérim, et ce directeur de la recherche qui a connu toutes les grandes écoles et qui a occupé les plus hautes fonctions. Donc je lui dis, voilà, moi je démissionne pour des raisons éthiques. Ça me pose un problème, puisque moi je pensais que les étudiants achetaient finalement le droit à une formation de qualité, ce qui, moi, ne me pose aucun problème. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils achetaient un diplôme. Et là, ils sont tombés des nues. Et la première réaction, ça a été de dire, mais attendez, c'est partout pareil. C'est partout pareil. Donc quand quelqu'un comme ça, qui a occupé les plus hautes fonctions, me dit sur le mode de l'évidence, mais dans le cadre confiné d'un bureau, ça ne se répétera pas sur la place publique, bien sûr. Quelqu'un qui a 70 ans, qui a tout connu du système, me dit ça. Moi, j'étais effaré de cette réponse.
Oui. Maurice Midena, vous souhaitez intervenir. Vous avez interrogé donc des étudiants pour un papier dans le monde diplomatique. Vous, en tant qu'ancien étudiant, comment vous ressentez les étudiants par rapport à leur diplôme, par rapport à leur école, par rapport à leur marque, finalement?
Ben, si vous voulez, il y a une vraie critique en off, du coup, des étudiants envers leur école. Elle n'est pas générale, mais elle est quand même très très présente. Il y a déjà la première critique, c'est en effet la critique sur le contenu des cours. Alors tout à l'heure, Madame Marthe m'a dit que c'est à cause du saut, il n'y a pas de continuum entre la prépa. Bon, ça c'est intéressant 5 minutes et ça ne dit pas grand chose en fait de vraiment du problème sur les contenus des cours. Bon, il y a déjà ce problème là. Aussi, on nous a parlé d'accompagnement. Énormément d'étudiants se plaignent du mauvais accompagnement de leur école sur leur choix de carrière, sur leur choix d'orientation, sur le choix de leurs échanges.
Ils se plaignent encore plus à l'université sur leur choix d'orientation, sur leur choix de carrière et sur l'accompagnement.
C'est même pas le problème. Enfin, ils peuvent très bien aller, se plaindre aussi à la fac. Le problème, c'est que ils se plaignent dans une école pour laquelle ils ont travaillé 3 ans pour rentrer,
pour laquelle ils payent
excessivement cher. Donc ça pose un vrai problème. Et en effet, sur l'image de marque, ça c'est une vraie. Et ça c'est un journaliste qui travaille, qui travaillait pour un grand magazine qui faisait des classements des écoles, et notamment un classement sur la satisfaction des diplômés. Quand vous voyez les notes qui vont de 1 à 5 sur le classement des diplômés, en vérité, les notes sont beaucoup plus basses. Et surtout, les étudiants survalorisent parfois la note qu'ils donnent à leur école pour avoir un diplôme.
Pour faire monter leur école dans les classements.
Parce que c'est le diplôme qui est important.
Alors, je vous ai donné le numéro de téléphone tout à l'heure, 33 1 84 22 71 71. Vous avez bien sûr la parole si vous avez étudié, quel que soit le pays, dans les deux systèmes. Nous accueillons un auditeur, Hugues, qui est à Metz, en France. Bonjour Hugues.
Bonjour, vous allez bien ?
Très bien, soyez le bienvenu. Vous avez 26 ans, vous travaillez dans la banque en France ?
Oui, exactement.
Oui.
J'occupe un poste de réviseur comptable à la Banque Populaire de Metz.
D'accord, très bien. Bon, au moins tout est dit, mais vous avez été étudiant où, dans quel contexte ? Expliquez-nous.
Alors je suivais un double cursus à l'université d'Abidjan. J'ai fait une maîtrise en économie, mention économétrie statistique.
Oui.
Et j'étais aussi inscrit dans une école privée où j'étudiais la finance comptabilité.
Oui.
Et après, j'ai étudié l'audit et contrôle de gestion, toujours dans la même école. Oui.
Et vous faisiez les deux cursus en parallèle, pourquoi ? Pour avoir plus de professionnalisation dans le privé ?
Bah, en fait, c'était un choix de mon père, honnêtement, premièrement. Et puis après, plus pour me donner plus de chance sur le marché de l'emploi.
Ouais. Alors, où sont les talents de demain, si je vous pose la question, Hugues ? Peut-être vous en faites partie, d'ailleurs.
écoutez, bon, pour ce que j'ai constaté, j'ai pas la science infuse, mais pour ce que j'ai constaté, pour moi, c'est clairement à l'université. Parce que quand je compare ce que j'ai, mon vécu à l'université d'Abidjan, où j'avais des professeurs en TD ou en cours magistral, qui nous donnait vraiment, qui nous poussait vraiment à aller au-delà de nos compétences. J'ai écouté tout à l'heure, je ne sais plus le monsieur qui était avec vous, qui parlait du coup de serre de rentabilité et autres, machin. Écoutez, ça, franchement, quand on faisait un coup, le prof, il essaie d'élargir l'horizon, et étant universitaire, on a cette type de recherche, d'aller au plus, pour vraiment comprendre ce que le professeur veut dire. Et ça, je n'ai pas retrouvé à l'université privée, dans les écoles privées.
Oui.
Parce que le système de notation, on vous donnait des fiches, des exercices que vous devez préparer, et puis à l'examen, on tirait 2-3 exos. Mm. Et du coup, si tu as préparé ta fiche, franchement, tu connais les réponses déjà par cœur, et tu vas et tu as une note. Et en fait, c'était plus pour que tu ailles en classe supérieure et autre chose. Enfin, je voyais pas trop qu'on essaie vraiment de tirer le meilleur de l'étudiant. Hein. Et du coup, moi, je m'étais inscrit juste pour me faire. Parce que c'est toujours bien dans un CV que tu as fait une école privée pour avoir une chance en entreprise.
Voilà, donc, au moins vous avez les deux. Comme ça, là, vous êtes bien paré et puis vous avez un emploi. Merci beaucoup, Hugues, de nous avoir téléphoné. Alors, quand même, la question qui se pose, Isabelle Barthes, pour ce qui est du secteur des écoles de management, de l'économie, des facs de gestion, etc. Comment on forme de bons managers pour les entreprises, finalement ?
Alors, je crois qu'en effet, ce qui était bien dans votre émission, c'était aussi demain. Et dans le demain, on attend de plus en plus des personnes qui sont dans la capacité à rebondir. La nouvelle règle, malheureusement, du marché du travail, ça va être d'apprendre à perdre son emploi. Et l'excès de professionnalisation, c'est aussi le risque d'obsolescence. Ce que je trouve intéressant dans ce que font les business schools, c'est le côté généraliste qui permet à l'étudiant d'être non seulement de trouver un emploi à la sortie, un métier tout de suite, mais aussi un métier tout au long de la vie. Et ça, on le voit dans les business schools parce qu'il y a ce qu'on leur enseigne, ce qu'on apprend, alors des compétences comme celles qu'on vient de donner, mais aussi comment on l'enseigne. Et là, on va vers ce qu'on appelle les soft skills, les compétences douces. Et ce qu'il y a dans la business school, qu'il y a moins à l'université, mais une fois de plus, il y a du bon dans les deux. Opposer les deux systèmes, pour moi, est ridicule. Après, ce sont des choix personnels, d'orientation, etc. Ce qui est intéressant dans les business schools, c'est la posture managériale. C'est-à-dire qu'avec les associations, qui sont très riches, avec le réseau des alumni, avec la possibilité d'aller à l'étranger pendant une année ou 6 mois, avec l'alternance, avec tous les stages qu'on propose, on ne forme pas des gens directement employables au sens d'un métier très très configuré, mais des gens qui vont en avoir sous le pied et qui vont être justement des talents. Et c'est ces soft skills, je pense, qu'on leur apprend. Alors, une soft skill, c'est quoi? C'est une compétence douce. C'est la résilience, c'est l'opiniâtreté, c'est la capacité à gérer son temps. C'est justement la capacité à apprendre, à apprendre, à désapprendre. Et ça, je crois que plus les étudiants sont encadrés sur des personnes qui sont des tiers, et c'est ça aussi une des richesses des business schools, c'est qu'il n'y a pas que des profs, il y a des carrières centers, etc., plus on enrichit les étudiants dans ces compétences, qui sont les compétences de demain face à l'intelligence artificielle.
Alors,
une fois de plus, opposer une business school à un IAE qui a fait des très belles choses en gestion, à l'université, et à une fac qui a aussi ses vertus, je pense que c'est tout simplement se tromper de combat. Ouais. Chaque étudiant peut d'ailleurs faire une fac, rejoindre une école, retourner dans un IAE, etc.
On arrive bientôt à la fin de cette discussion. On l'a dit, ces dernières années, les business schools n'ont cessé d'augmenter leurs tarifs, pas que en France hein, d'ailleurs. Il a été démontré il y a quelques années par des institutions internationales que le meilleur investissement à faire pour un jeune, c'était d'investir dans sa formation, parce que cet argent lui serait largement rendu quelques années plus tard grâce à un salaire confortable. Est-ce que, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, Michael Lenné, vous avez le sentiment aujourd'hui que c'est encore le cas, que les étudiants le pensent, qu'ils sont encore dans cette certitude, dans cette sécurité, ou que tout est en train tellement de se reconstruire, de se déconstruire d'abord, que les étudiants sont critiques un peu partout d'ailleurs, y compris à l'université, sur ce qui leur est proposé?
Alors oui, ils sont critiques partout. Je pense que c'est... on va plutôt vers un renforcement de ces logiques-là, de cette polarisation des études, et je pense que les écoles de marché...
Investissement, rentabilité.
Oui, et je pense qu'effectivement, c'est un investissement très rentable en termes purement pragmatiques. Être diplômé d'école de commerce, c'est un super viatique pour le marché du travail. Et vous êtes largement remboursé de l'argent qui a été investi, et non pas des efforts qui ont été investis. Et effectivement, l'insertion sur le marché du travail, suite à une école de commerce est bien meilleur. Ceci étant dit, je pense qu'il y a plus de compétences et plus de savoir-être chez les étudiants d'université, en tout cas d'après mon expérience. Je pense que c'est assez net.
Maurice Midena, alors qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le modèle finalement français?
Si vous voulez, je pense que sur le modèle français, il n'y a pas grand chose à changer. En vérité, l'école de commerce, elle répond à ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire à créer des cadres de l'économie libérale et capitaliste qui vont ensuite travailler dans des grandes entreprises, dans des fonctions support de la production.
Et en même temps, de plus en plus d'étudiants dans les grandes écoles signent, adhèrent à de nouvelles chartes, à de nouvelles initiatives.
Vont dans des associations, s'engagent dans des ONG, voilà. Créent leur entreprise. On est un peu dans la caricature. Le cadre de la grande entreprise, on n'est pas dans ce formatage. Les étudiants, on l'a dit, ont des aspirations de plus en plus diverses.
Et alors, comment les écoles vont s'adapter à ces étudiants qui sont en train de changer à vitesse?
Mais elles s'adaptent déjà. Et de moins en moins d'heures de cours en amphi, en face à face, de plus en plus d'expériences hors les murs, de plus en plus de digitalisation pour pouvoir bouger, et de plus en plus d'expériences entrepreneuriales, par exemple.
Et est-ce que le nerf de la guerre, ça continue d'être la rentabilité pour ces écoles, ou bien la détection précoce des talents, de rafler les meilleurs?
Mais ça ne s'oppose pas, c'est simplement du business model. À l'université, les professeurs... Qu'est-ce qui coûte cher dans une formation? C'est la masse salariale des enseignants. À l'université, ils sont fonctionnaires. J'ai été fonctionnaire 25 ans... Donc, on n'a pas cette rentabilité, entre guillemets, à avoir. Dans une école de commerce, tout est financé par les frais de scolarité et on ne le cache pas aux étudiants. Et pourtant, on leur interdit de se comporter comme des clients et des consommateurs parce qu'on maintient cette distance pédagogique, contrairement peut-être à ce que vous avez vécu.
Tout est financé, pas tout. Il y a quand même le concours des chambres de commerce, d'industrie, etc.
Ça dépend des écoles. Beaucoup d'écoles maintenant arrivent à 98% sur les frais de scolarité et les chambres de commerce et de notoriété publique se retirent. Le business model des écoles de commerce françaises est en train d'être complètement bouleversé à ce niveau-là.
Et bien voilà, affaire à suivre, donc débat à prolonger pour une autre émission. Merci à vous trois, Isabelle Barre, directrice générale de l'INSEC Business School. Michael Lenné, merci à vous. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et Maurice Midena, vous êtes journaliste. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne. On donnera la parole à Douglas Mbiandou, ingénieur entrepreneur en informatique en France. Il a aussi créé l'initiative 10 000 codeurs pour l'Afrique et lance un appel. Enfin, ce sera juste après Jachou de Bongo Hop. gagne. On donne la parole régulièrement dans cette émission à ceux qui font le continent de demain. Aujourd'hui, rencontre avec Douglas Mbiandou, ingénieur. Il est aujourd'hui à la tête d'Objis, qui est un centre d'informatique. Cet entrepreneur lance maintenant 10 000 codeurs, une aventure pour former les jeunes du continent africain au métier du numérique. Il vit entre Lyon et l'Afrique et il a financé son programme de formation à partir de ses fonds propres. Il ne demande qu'une modeste contribution aux jeunes pour le moment, tout en cherchant des subventions internationales. Le codage, c'est la grande affaire de demain pour le continent africain, pour former notamment des développeurs. Retour sur l'itinéraire personnel de Douglas Mbiandou.
Alors mon histoire a commencé le 24 juillet 1976 à Yaoundé, au Cameroun. Et à 7 ans, mes parents m'ont mis dans un avion avec mon oncle qui se cherchait en Europe, vous savez, comme on dit, hein, venir se chercher. Alors mes parents ont fait ce choix parce que c'était une opportunité pour moi, pour mon avenir, de venir en France pour faire mes études. Ils voulaient m'éviter une trajectoire que connaissent malheureusement beaucoup d'autres jeunes. Ils voulaient me donner la chance de faire des études et ils voulaient me voir un jour devenir peut-être ingénieur. Je me rappelle parfaitement de ces au revoir sur le tarmac de l'aéroport Yaoundé Nsimalène. Je me rappelle de cette déchirure que j'ai ressentie au plus profond de moi, de quitter mon histoire, de quitter ma terre, de quitter mes parents, de quitter ma famille.
Vous arrivez en France, vous arrivez où ?
J'arrive à Compiègne, dans l'Oise, avec donc mon oncle et sa femme, dans un F2.
Un appartement de deux pièces.
Voilà, un appartement de deux pièces. Et c'est là que je fais l'école primaire et puis une partie de mon collège. Et enfin, j'ai encore déménagé une troisième fois pour arriver à Créteil. Et c'est là que j'ai fait mon lycée, mes classes préparatoires, mathématiques supérieures, mathématiques spéciales. Et j'ai atterri ensuite à Lyon, encore déménagé cette fois-ci, pour finir mes études d'ingénieur, donc à l'INSA de Lyon. C'est seulement à 12 ans que je suis retourné au Cameroun pendant un été. Et après, je suis plus reparti. Mon oncle, qui s'est complètement occupé de moi, lui, il était ouvrier dans une usine d'imprimerie. Et ses revenus ne lui permettaient pas de me faire retourner au Cameroun chaque année. J'obtiens mon diplôme d'ingénieur. J'intègre une grande compagnie qui permet de faire des projets pendant plusieurs années en tant qu'informaticien, spécialiste de la programmation informatique. Mon métier, c'est de créer des applications pour des clients. J'ai créé ma première société, donc Objis, c'était en 2005. Mon objectif, c'était d'avoir de gros clients, d'avoir des gros carnets de commandes. C'était ça mon symbole de réussite. La réussite de ce premier défi coïncide à peu près avec la quarantaine.
La fameuse crise.
La fameuse crise, je ne sais pas si c'était une crise, mais effectivement, en ce qui me concerne, lorsque j'ai coché la case réussite, entre guillemets, avec des clients grands comptes, en France, d'ailleurs à l'étranger aussi, hein, EcoBank, comme Orange, comme BNP Paribas, comme HSBC, comme SAP, la douane du Sénégal, le ministère des Finances du Congo-Brazzaville, voilà, j'ai des clients. Maintenant, je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir des gros clients, mais quel est le nouveau challenge ? Et donc là, je suis rentré dans une approche un peu d'introspection. Et donc, j'en arrive à comprendre qu'aujourd'hui, il y a sur le continent, un continent que je côtoie, à travers aussi l'activité professionnelle, des jeunes qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas de repères. J'ai pensé, modestement, que mon prochain objectif serait peut-être de devenir un repère pour cette jeunesse et aussi pour ces femmes qui sont sur le continent, qui ont aussi une forte envie de réussir, mais qui sont en arrière-plan. Donc tout le savoir-faire que j'ai donné pendant 10 ans aux multinationales, j'ai choisi de donner ce même savoir-faire à des populations pour qu'elles changent de vie, pour qu'elles puissent s'autonomiser dans un secteur où la demande est mondiale.
L'informatique, le développement.
L'informatique, le numérique en général et le développement d'applications en particulier. Et c'est ainsi qu'est né un nouveau projet, le projet 10 000 codeurs. J'ai choisi comme nouveau challenge en 10 ans de changer la vie de 10 000 jeunes et femmes sur le continent en leur proposant un savoir-faire technique qui est demandé par le monde entier. Et donc le projet de s'autonomiser via les métiers du numérique est né. Parce que derrière cette idée de former 10 000, il y a la volonté de faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique fort de son dividende démographique.
Est-ce que c'est pas trop ambitieux étant donné les freins techniques aujourd'hui auxquels le continent est confronté ?
Pour moi, c'est un faux débat. Supposons que sur une journée, il y ait une heure d'Internet. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette heure ? C'est ça qui m'intéresse. Et pour le jeune, c'est de lui dire, mais la seule heure qu'il y a là, il faut que tu sois efficace, que tu ailles chercher la bonne information sur le bon site Internet. Former 10 000 personnes, c'est ambitieux. J'ai voulu d'abord me faire la main avec 100 personnes. Entre 2016 et 2018, dans 3 pays, sur 165 personnes que nous avons formées, il y a 125 personnes qui aujourd'hui sont autonomisées et nous font des témoignages que nous relayons dans les réseaux sociaux surtout. Je pense par exemple à Youssouf. Il est Camerounais. Il n'a pas forcément fait des études en informatique. Et Youssouf, lui, ce qu'il voulait, c'est créer un site de e-commerce. Il est venu chez nous, il a été formé, il s'est beaucoup donné, et aujourd'hui, il est entrepreneur, et il a créé la plateforme yema.cm. Vous voyez, c'est un résultat concret. Il y a 5% de jeunes qui ont terminé qui sont entrepreneurs. Nous voulons, dans la phase pilote, passer ça à 30%. Il y a 15% de femmes dans la phase pilote qui ont terminé. Nous voulons passer ça à 50%. 80% des personnes qui sont formées, on veut qu'elles restent sur le continent. Nous avons mis 300 000 euros sur la table et nous avons un premier résultat. C'est pas grand chose, mais c'est des vies qui ont été changées à travers un process que nous pouvons répliquer et que nous pouvons industrialiser. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais combien ça coûte de quitter du Maroc pour aller en Espagne ? Là, ce qu'on recherche aujourd'hui, et ceux qui doivent nous contacter, ce sont les bailleurs de fonds, ce sont les États, ce sont les organismes de coopération internationale. Donc je dis à la France, je dis à la Commission européenne, je dis à la Banque mondiale, devenez partenaire du Micodeur. Atteignons ensemble non pas 10 000 sur le continent, mais 10 000 par pays. Parce que voyez-vous, mes ambitions ont changé. Mes ambitions ont changé parce que je sais maintenant que le chiffre 10 000, il ne doit plus s'appeler simplement au continent, c'est 10 000 fois 54 qu'il faut. L'Afrique qui gagne, ce sont des dirigeants qui prennent conscience des enjeux, qui n'ont pas peur de leur jeunesse et qui créent des conditions pour que leur jeunesse soit actrice de la transformation du continent.
Voilà, c'était la vision de Douglas Mbiandou. Pour postuler à 10 000 codeurs pour le codage en informatique, des formulaires sont en ligne sur le site internet. Tout est noté sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Évidemment, la concurrence est rude. Ils sont déjà plus de 5 000 à avoir déposé un dossier. Merci à vous tous. Merci à l'équipe Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Nous retrouver également sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter. Et demain, on se retrouve en direct, même heure, même endroit, 7 milliards de voisins. On parlera de vos galères dans les transports en commun de vos villes respectives, dans les bus, dans les trams, dans les métros. Comment améliorer les transports en commun des villes? Quelles sont les innovations? Dans quelles villes? Et pour quels résultats? Vous pouvez nous appeler dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est le téléphone WhatsApp. À demain.